Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
C'est vraiment chouette de pouvoir être en mission tous ensemble, d'être en train de multiplier ce que nous avons reçu, en train de communiquer aux autres ce que nous avons. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure vie, et il n'y a pas de plus grand bonheur que justement de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Amen. Et c'est le but du message que le Seigneur a commencé à me demander de vous apporter et de vous interpeller sur le fait que le Seigneur nous a invités à construire le royaume de Dieu. Amen. Dites avec moi, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens imaginent et s'imaginent que une fois qu'ils sont chrétiens, ben c'est bon, ils ont fait le principal, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, de toute façon ils iront au paradis, et pour le jugement dernier, eh bien alors peut-être ils auront sauvé les meubles. Mais c'est mal comprendre la Bible, et c'est ne pas comprendre que les chrétiens, nous aurons aussi un autre jugement qui viendra avant le jugement dernier, qui est le jugement de nos œuvres. Dites avec moi, les jugements de mes œuvres. Et vous allez peut-être dire, oh ben je m'en fous, c'est pas grave. Mais le Seigneur, lui, ne s'en fout pas, parce que dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il parle de la fin des temps, il s'adresse aux croyants et il s'adresse à eux pour leur dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait avec l'onction que je t'ai confiée? Qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit qui vit en toi? Et c'est vrai qu'il est assez terrible de voir à quel point beaucoup de gens peuvent dire Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur dit beaucoup souvent, ben je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, il y a des gens qui ont Jésus sur leurs lèvres, mais ils ne l'ont pas dans leurs actes. Ils ont Jésus dans leur louange, mais ils ne l'ont plus depuis longtemps dans leur caractère. Ils ont Jésus dans leur imaginaire, mais ils ne l'ont plus comme ami dans leur vie personnelle de tous les jours. Et beaucoup de gens dans leur imaginaire disent Jésus m'aime, j'aime Jésus, mais ils ne font rien pour lui, ils ne cherchent pas son intimité, ils ne se lèvent jamais le matin pour prier. Ils viennent de temps en temps à l'église et ils pensent que c'est un privilège qu'ils donnent au Seigneur, alors qu'en réalité c'est leur privilège de pouvoir prendre cette force de la puissance de Dieu et cet appel spécifique du Seigneur de se multiplier pour dominer la terre. Alléluia. Or, il se fait que chaque chrétien, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, chaque chrétien est appelé à dominer la terre. Chaque chrétien est appelé à se multiplier là où il est. Et un chrétien n'est pas appelé à rester là ou dans la condition où il était. Mais comme dans notre société, on nous a enseigné à être dépendants du gouvernement, dépendants de Louis XIV, à qui on demande des privilèges, dépendants des aides sociales, dépendants de un tel, dépendants, il se fait qu'il est très difficile pour nous d'entrer dans une nouvelle mentalité qui est la mentalité de l'entreprise, la mentalité du développement, la mentalité de la création. Et bien au contraire, nous nous sommes habitués à prendre toujours des autres, à attendre toujours des autres. Et c'est pourquoi dans notre pays, il a été si facile de développer la mentalité qu'a développée l'Église catholique et aussi certaines églises protestantes, qui est la mentalité de la pauvreté, la mentalité du misérabilisme qu'on va maquiller en spiritualité. Et ainsi, on va nous apprendre que celui qui est humble, c'est celui qui est nul. Celui qui est humble, c'est celui qui est le plus mal vêtu. Celui qui est humble, c'est celui qui rate toujours. Et que les humbles, c'est ceux qui mendient aux portes des temples. Et ainsi, même dans notre offrande, on nous a appris à faire la quête, on nous a appris à donner les piécettes, alors que la parole de Dieu nous apprend bien au contraire à renoncer à cet esprit qui n'est pas de Dieu et à embrasser la vie de l'entrepreneur. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des petites offrandes de notre temps, des petites offrandes, des petites piécettes d'offrandes de notre argent, des petites offrandes de notre amour, des petites offrandes de consécration. Le Seigneur nous demande de nous engager tout entier et d'avoir une vie qui ne donne pas en fonction de ce qu'il a reçu, mais une vie qui regarde l'avenir avec un objectif en disant « ça, je l'aurai parce que Christ en moi, la puissance de la gloire ». Alors ça change tout. Alors quand on fait une offrande, on fait pas une offrande en disant voilà, j'ai gagné 1000, alors je donne 100. On dit Seigneur, ce mois-ci, je crois que ton œuvre a besoin. Alors par exemple, je vais donner 500 ou je vais donner 1000 ou je vais m'engager. Mais comment vais-je faire pour l'avenir? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et si je n'ai pas assez de la manière dont je fais, c'est que Christ veut que j'apprenne une manière nouvelle pour pouvoir avancer et pour pouvoir me multiplier. C'est ce qu'on appelle la multiplication des talents que nous avons reçus. Là, je prends un exemple financier, mais ça peut être un exemple sur le temps, ça peut être un exemple sur celui qui apprend à diriger, ça peut être un exemple sur celui qui fait la louange, tout ce que Dieu peut t'appeler à faire, tu es appelé à changer. Parce que nous avons une vocation, et c'est ce que je vous disais cette semaine, je fais un peu un résumé, que nous ne devons pas disperser, nous avons une vocation à construire le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, il y a trois aspects importants. Le premier aspect, c'est l'aspect eschatologique. L'aspect eschatologique, ça veut dire l'aspect de l'avenir, de ce qui va se passer, de ce qui va se passer aussi dans la fin des temps. Et cet aspect eschatologique nous fait dire cette prière que disait tout à l'heure le pasteur Alexandre. Viens, Seigneur Jésus, viens. Alléluia. Et ça, c'est très important parce que très souvent, nous, on est toujours en train de brouter notre herbe de tous les jours et la seule chose qu'on voit, c'est nos petits problèmes, la seule chose qu'on voit, c'est notre petite existence. Mais Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui avons une grande vision, qui avons un grand avenir, qui avons une grande espérance. Et quand on vous dit aimer la France, c'est-à-dire qu'il faut passer non seulement à notre petite dimension, mais ensuite grandir de la dimension de notre quartier, à notre village, à la France, au monde, pour pouvoir amener ce merveilleux message. Et nous apprenons que lorsque nous attendons ce règne de Dieu, ce n'est pas une attente passive, une attente où nous sommes là en disant « bon ben voilà, un jour le Seigneur va venir ». Mais au contraire, nous voulons hâter son avènement, nous voulons hâter l'avènement des choses de Dieu sur cette terre en étant nous-mêmes actifs et en faisant ce que les chrétiens doivent faire. Et c'est ainsi que la Bible dit que ceux qui comprennent cela sont ceux qui vont hériter la bénédiction. Et ceux qui vont travailler à hâter vont parfois vivre des difficultés parce que les autres vont être jaloux, les autres ne vont pas les comprendre. Mais la Bible dit que c'est à eux sur qui il va investir plus que jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut, se moquer des attitudes qu'on peut avoir contre nous lorsque nous faisons le bien et que d'autres ne veulent pas faire le bien. C'est pas le problème. Nous devons nous concentrer dans ce que nous avons à faire. Alléluia. Et donc cette attente de l'avènement fait que le chrétien se met en route, non seulement parce qu'il veut que les choses de Dieu viennent sur cette terre et sur son existence pas seulement, mais aussi sur l'existence autour, mais également cette espérance de l'avènement fait aussi que ce n'est possible que dans le cœur du chrétien qui a compris que Dieu va lui demander des comptes. Fanny, Dieu va te demander des comptes. Et je t'assure qu'il va te demander des comptes. Et quand on voit la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu parle des comptes, c'est Jésus lui-même qui parle. Et quand il parle, je peux vous dire, on va voir maintenant ce qui va arriver à ceux qui n'ont jamais compris qu'un jour le maître allait leur demander des comptes. On va voir aujourd'hui. Et donc dans cette perspective eschatologique, il est important de construire, non pas par peur, mais simplement par responsabilité, et de construire sa vie de manière à ce qu'on puisse un jour se présenter devant Dieu et ne pas risquer. C'est pas seulement de se faire engueuler, vous avez qu'à lire la Bible et vous trouverez l'interprétation par vous-même. Alors ensuite, il y a aussi cet aspect, le deuxième aspect, c'est l'aspect de la vocation. Et je vous parlais la semaine dernière combien la vocation du chrétien, l'appel du chrétien est celui de se multiplier. Et on a pris cette parabole qu'on va relire dans quelques instants. Le Seigneur a pris 10 de ses serviteurs, le grand roi, l'homme d'affaires de l'époque, a pris 10 de ses serviteurs et de ses amis, et il leur a donné à tous la même chose. Il leur a donné un talent, c'était une belle somme d'argent. Il leur a donné un talent, c'est-à-dire qu'il leur a confié quelque chose d'important. Il en a pris 10. Et puis, plus tard, quand il est revenu, et il leur a dit, vous devez multiplier. Dites avec moi, multiplier. Vous devez faire fructifier. Dites-le encore avec moi, faire fructifier. Ok? Et ça, c'est très très important. Une traduction dit, on peut aussi comprendre cela, négocier. Dites-le avec moi encore, négocier. D'accord? Et cet aspect de la négociation, de prendre ce que nous avons, de le mettre en jeu pour la gloire du royaume de Dieu, est quelque chose qui est très important dans l'esprit du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'aspect de la vocation. On pourrait presque dire vocationnel, même si ce mot n'est pas français. Mais dans cet aspect de vocationnel, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a 10 quand le maître revient, d'abord c'était un homme d'affaires, mais ensuite il a été couronné roi, c'est-à-dire qu'il a commencé comme simple héritier de quelque chose, mais comme il l'a fait travailler, il est devenu un puissant homme d'affaires, et Dieu ne va pas faire seulement que ton travail reste un travail que pour toi, mais comme tu es fidèle dans les petites choses, il veut te confier des affaires de gouvernement, parce que le but du chrétien n'est pas seulement celui de rester à vivre dans sa vie de tous les jours, ni même de réussir son existence, ni même d'être fidèle dans le Seigneur, mais c'est d'être placé à des postes stratégiques pour pouvoir influer dans le cours des événements pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Et c'est tout le sens de la prière que Jésus lui-même va enseigner à ses disciples qui est dit « Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et un peu plus tard, que ton règne... » Amen, vous avez compris, tout le monde a prié cela, dites avec moi « que ton règne vienne ». Et comment le règne de Dieu va-t-il venir? Il va venir par toi, mon frère, ma sœur, par moi aussi. C'est-à-dire que c'est chacun de nous qui, en faisant ce que nous sommes en train de faire, en répondant à la vocation et à l'appel qui sont nôtres, eh bien, nous pouvons hâter le règne de Christ. Hier, nous avons hâté le règne de Christ à Caen, et des gens ont été incroyablement touchés. La puissance de Dieu s'est manifestée tellement hier soir, à un moment donné, simplement en tendant le doigt comme ça, les gens tombaient comme ça, pam, 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 les pasteurs ont décollé comme ça, même des propres pasteurs qui étaient là, les brancardiers étaient perdus. Et quelque chose s'est passé, des églises qui étaient à peine charismatiques ont dit maintenant on veut vivre avec le Seigneur. Là, vous avez entendu les témoignages des gens qui étaient morts, qui étaient complètement partis dans le péché, sont venus, sont repentis. Le règne de Dieu est venu dans plusieurs familles cette semaine, alléluia! Tout simplement parce qu'il y a une église qui s'est levée et qui a dit à un moment donné, que ton règne vienne, Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Et alors vous êtes venus, vous avez travaillé, on n'a plus de voix. Johan, il a même plus de voix pour nous conduire ce matin. Mais on préfère avoir une voix cassée qui a obéi au Seigneur qu'une voix parfaite qui fout jamais rien. Et je peux vous dire que cette semaine, Caen a vu une partie du règne de Dieu. Et quand on n'était même pas sorti de la salle, ils nous ont supplié, pasteur, est-ce que vous revenez l'année prochaine? Quand Jésus t'aime? Quand le règne de Dieu va venir? Alléluia! Et dans cet aspect de la vocation, c'est très important, parce que le Seigneur nous enseigne, non pas à être passif, mais à nous occuper des affaires de notre Père. Et moi, quand je me suis converti, j'ai eu la chance de comprendre cela très tôt, parce que j'ai eu la chance d'aller aussi dans des endroits où il y avait des réveils, où des choses se passaient, comme vous avez la chance d'avoir une église qui veut bouger. Parce que je peux vous dire que dans notre pays actuellement, il n'y en a pas encore tellement, ça va changer, mais il n'y en a pas encore tellement. Et autant la flémardise, ça se communique, autant le courage, ça peut se communiquer aussi. Mais il faut faire attention, parce qu'un bon dormeur, il vous en entraîne 150 facilement. Alors qu'un bon réveillé, s'il arrive à vous en avoir 3, il est content déjà, hein? Alors c'est très difficile. Et pourtant, le Seigneur nous appelle dans cette vocation d'aller de faire fructifier, d'aller faire valoir. Et dans cet aspect vocationnel, ce qui se passe, c'est que le Seigneur part, il est parti, mais il va revenir. Et celui à qui on va devoir rendre des comptes, c'est pas seulement le Seigneur Jésus qui nous a sauvés, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a des yeux de feu et qui va nous regarder avec ce feu. Et je peux vous dire que la Bible dit qu'on va passer au feu. Et on verra de quoi nos œuvres sont faites. Bien sûr qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais la Bible dit qu'on va tous passer devant le trône du jugement. Et je peux vous dire que quand on va passer au feu. Et on va voir ce qui va rester. Ça n'a rien à voir avec la perdition ou avec le salut, mais ça a à voir avec les œuvres. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça fait 10 ans qu'il y a cette église, jamais je ne vous ai parlé de l'eschatologie. Jamais, pas une seule fois j'ai prêché sur la fin des temps ou sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, sauf en vous disant « Jésus va revenir ». Et c'est seulement après 10 ans que j'ose, parce que le Seigneur veut nous faire passer dans une nouvelle dimension dans notre Église, Dieu a beaucoup d'espoir pour notre Église, commencer à vous dire « Attention, mesdames et messieurs, Jésus va revenir ». Et en tout cas, s'il revient et qu'on est encore sur cette terre, qu'on n'est pas déjà mort parce que c'est notre temps qui est passé, de toute façon, ceux qui vont partir vont rejoindre le Seigneur. Et là, ils vont rendre des comptes. Tout le monde pense qu'on va arriver, que le Seigneur va dire tout de suite, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais avant, il y a le trône de jugement. Et pour que le Seigneur puisse te dire, viens, bon et fidèle serviteur, il va déjà te peser et voir ce que tu as fait avec sa vie. Amen. Et ça, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ceux qui auront travaillé seront récompensés. Et il ne faut pas croire que, ça y est, on va arriver tout de suite, on sera là. Il y a un règne qui va en train d'arriver et de se préparer sur cette terre. Il y a un règne millénium aussi, selon l'interprétation de certaines personnes. D'autres ont une autre interprétation, je ne veux pas trop me mettre sur les diverses interprétations de l'Apocalypse. Mais il y a un règne. Et je peux vous dire que l'éternité, c'est très long quand on est mal placé. Et alors, le Seigneur a investi, ce roi de la parabole avait investi dans 10 serviteurs de Dieu. Quand il demande de rendre des comptes, il y en a 7 qui sont déjà plus là. Ils ont même oublié, ils ont pris cet argent, ils l'ont gaspillé, on les voit déjà plus, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Cette mine qui était vraiment riche, n'est-ce pas, une richesse a déjà été dilapidée, on ne sait pas ce qu'ils ont pu faire avec ça. Et puis par contre, il y en a 3 autres qui ont quand même décidé de revenir, et c'est déjà pas mal. Mais imaginez, pour un homme d'affaires, perdre 70% de l'investissement, c'est beaucoup, parce qu'on disait la semaine dernière justement que sur 10, il y en a que 3 qui reviennent. Quel retour sur investissement? Et puis sur ces 3, eh bien le premier, il va rendre des comptes sur ce qu'il a dit, et on voit que la parole de Dieu dit qu'il a beaucoup travaillé, et la Bible dit: j'ai beaucoup travaillé, je me suis efforcé, n'est-ce pas, et j'ai multiplié. Et voilà ce que j'ai réussi de une mine, j'ai réussi à en faire 10. Et le serviteur de Dieu s'apprêtait à lui rendre la mine, mais le Seigneur lui a dit de la garder, on verra tout à l'heure. Le second, lui, il est arrivé et il a dit: j'ai réussi à en prendre 5. C'est-à-dire que je l'ai mis à la banque, j'ai travaillé, j'ai investi, je me suis donné, et de une mine, j'en ai fait 5. Et le troisième, il arrive et lui, eh bien, il est assez marrant, parce que celui-là, il arrive et il a pas tout à fait tout compris, n'est-ce pas? Mais il pointe le nez et puis il lui rend sa mine et il lui dit: maître, j'ai eu peur de toi, je savais pas quoi faire avec ma vie, et voilà. Alors du coup, j'ai pas gaspillé, hein, je suis resté fidèle, j'ai pas pris cet argent qui n'était pas, ce don, ce talent qui n'était pas à moi, je l'ai gardé, voici, je te le rends. Et le Seigneur lui dit: méchant serviteur. Dites avec moi: méchant serviteur. Méchant serviteur. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, la différence entre un chrétien gentil, un bon chrétien, et un chrétien méchant. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors, nous voyons la semaine dernière que ce troisième gars, le premier arrive, il dit, d'abord on va relire peut-être un peu le texte pour que vous puissiez vous remémorer, n'est-ce pas? Un homme de haute naissance, dans Luc 19, verset 11. Et j'aimerais bien que chacun puisse écouter aussi la première partie du message de la semaine dernière, de manière à pouvoir se remettre vraiment dans l'ambiance du message. Un homme de haute naissance alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté, et puis revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et il leur donna 10 mines, et il leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire: nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fut appelé auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien. Tout le monde dit avec moi: c'est bien. Bon et serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second lui dit, vint et lui dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et lui dit: Seigneur, voici la mine que je t'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et il lui dit: je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Une autre traduction dit: méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonné ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, mais il a déjà 10 mines celui-là. Je vous le dis, dit le Seigneur, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il est. J'aimerais qu'on répète ce verset, parce que ça va être la clé du message aujourd'hui. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qu'on a, qui n'a pas, pardon, on notera même ce qu'il a. Alors, vous allez voir que cette théologie-là, qui est la théologie biblique, n'est pas la théologie populiste qu'on est habitué à entendre en France, où il faut tout donner à fond perdu à ceux qui ne veulent rien faire. En France, dans la Bible, ça n'est pas la même chose. Et regardez ce qu'il dit à ceux qui ne sont même pas venus, qui ont tout gaspillé, qui ont reçu cette grâce au début et qui en ont fait n'importe quoi. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Je vous rappelle que c'était ses amis. Des gens en qui il avait toute confiance, en qui il avait confié le même dépôt, le même argent, le même Saint-Esprit. Et voici ce qu'il dit. Amenez-moi mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Égorgez-les en ma présence. Et après avoir ainsi parlé, il prit les devants et il monta à Jérusalem. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien entendu, ici, il y a une différence de productivité. Celui qui a gagné 10 mines et celui qui a réussi à en faire 5 mines, eh bien, celui qui a fait 5, on peut dire que son résultat est 50% en moins, mais pourtant, il a fait le bien, il a bien fait. Parce que ce qui détermine l'appréciation du maître ici, c'est que il a quand même fait quelque chose. En revanche, on voit quand même que sur un même dépôt que tout le monde a reçu, la mine du départ, quand on devient chrétien, on reçoit cette mine d'or, on reçoit ce Saint-Esprit, cette force, on reçoit des dons spirituels, mais ce qui détermine le résultat et la différence du résultat, eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui a donné la mine. Puisque nous avons reçu toujours la même mine. Souvent, les gens nous disent, ah, mais toi, pasteur, tu fais ci, toi, pasteur, tu as l'onction, toi, etc. Mais toi aussi, tu l'as. Toi aussi, tu as reçu. Toi aussi, tu as reçu le même Saint-Esprit que moi. Et donc, ce qui fait souvent, bien sûr, il y a des capacités différentes et des dons différents. Mais nous devons toujours nous souvenir que ces serviteurs ici ont reçu la même chose. Dieu n'a pas fait d'acception de personne. Il a donné à tous ses serviteurs la même chose. Mais c'est celui qui a reçu la mine qui fait toujours la différence. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on verra tout à l'heure que les excuses qu'ils vont donner vont pas toujours fonctionner. Parce que ça va à l'encontre des croyances humaines, même parfois égalitaristes ou communément répandues. Mais dans la parole de Dieu, celui qui l'a reçu et qui l'a misé, n'est-ce pas? Et celui qui l'a reçu, celui qui a misé, c'est aussi celui qui va récolter. Et c'est en fonction de ce que tu vas miser, en fonction de ce que tu vas investir, en fonction de ce que tu vas te donner, que tu vas pouvoir récolter. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas quelque chose de spécial, de quelque chose de magique que soudainement, ça vient comme ça. Ton argent vient pas comme ça. Ton entreprise vient pas comme ça. Ton couple vient pas comme ça. Si tu veux garder ton mari, il va falloir que tu t'occupes un peu de lui. Parce que sinon, un jour ou l'autre, eh bien, tu auras plus de mari. Tu peux perdre ton mari. Dieu peut même le donner à quelqu'un d'autre. Ou c'est pareil pour ta femme. Il y a un moment donné, il faut quand même savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as misé. Tu as une bonne église. Ah ben, c'est bien. Puis si tu restes sans rien faire, peut-être un jour, Dieu peut retirer les serviteurs qu'il avait mis, peut retirer même l'église. Puis tu te retrouves sans rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas misé. Tu n'as pas investi. C'est pour ça, quand on a un trésor, il faut faire attention de ce qu'on a. Et ça, c'est quand même important. C'est que chacun met ce qu'il peut, mais chacun doit mettre quand même. Chacun met de son temps, de ses capacités, et on n'aura pas tous le même rendement. Mais en tout cas, dans ses serviteurs, le maître veut que chacun le prenne à cœur l'œuvre de sa vie, la mine qu'il a reçue. Et chacun met en fonction de sa mesure, mais la mesure dépend aussi de ce qu'on appelle notre vocation et notre appel. Et c'est pourquoi ce texte nous parle avant tout de l'appel d'être joyeux d'être ce que nous sommes, de pouvoir gérer ce que nous avons reçu. Et bien entendu, ici, il ne s'agit pas de comparer des serviteurs, d'en mettre un qui est meilleur que l'autre, parce qu'il y a aussi une autre réalité, c'est que chacun reçoit en fonction de ce qu'il est capable de gérer. Et ici, le maître va faire un test, c'est-à-dire qu'il va donner à tout le monde la même mesure, mais en fonction de ce que chacun va faire, pas en s'efforçant de cette mesure-là, et ensuite il va pouvoir l'amener dans une nouvelle dimension de gouvernement. Alléluia. Et de la même manière que lui était un homme d'affaires, qui est parti, qui a reçu un règne, tous ceux avec qui il a investi, ce sont des petits hommes d'affaires ou des petits commerçants qui ont commencé avec rien. N'oubliez pas, c'était des esclaves qui ont commencé avec rien. Il leur donne une chance, nous, inouïe, parce qu'à l'époque, quand tu étais esclave, tu restais esclave jusqu'à la fin de ta vie. Là, il va les affranchir, dites avec moi, affranchir. C'est-à-dire que de la condition d'esclave, de serviteur, il va leur donner une chance de devenir entrepreneur. Dites avec moi, entrepreneur. Et c'était inouï. Et sur les 10, il y en a plein qui n'ont pas remarqué. Ils ont pris la mine comme si c'était une prime, parce qu'ils avaient bien travaillé. Ah, j'ai eu mon 13e mois, ont-ils pensé peut-être. Alors qu'il y en a un qui a dit, attention, il est en train de m'affranchir. Attention, j'étais esclave. Attention, j'étais perdu. Et maintenant, j'ai une nouvelle condition. Je dois faire quelque chose avec ça. Vous comprenez? Et ce qui m'excite là-dedans, c'est pas seulement c'est pas vraiment le résultat, même si c'est important, mais c'est surtout l'attitude qu'il y a eu. Et que j'imagine que ce premier qui a fait 10 mines, il a beaucoup travaillé parce que le résultat d'une vie, la multiplication dans une vie, le résultat d'un couple, le résultat d'une famille, le résultat d'une paternité dépend beaucoup de nos efforts, des efforts qu'on a fait. On peut perdre, je vous répète, ce qu'on avait reçu parce qu'on n'en donne pas assez d'efforts. Et ici, il est très intéressant de voir que le roi, quand ils viennent lui donner des comptes, il ne va pas leur enlever la mine de départ. Et même sur celui qui a que 50% de résultats par rapport à l'autre, il va pas lui dire, bon, comme tout le monde dirait, bon, ben, c'est normal, maintenant, j'ai investi ma mine, je récupère ma mise avec les intérêts et je te donne ta commission, tout le monde ferait ça. Mais non, ici, le maître fait quelque chose d'incroyable, c'est que l'argent qu'il lui avait donné au début, il lui laisse. Et non seulement il récupère pas la mise, mais en plus, il va lui donner 5 villes qui, eux, vont produire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que lui-même était devenu un homme d'affaires, il est devenu le roi, et ceux qui étaient autour de lui, ils étaient des esclaves, ils sont devenus eux-mêmes des régnants. C'est-à-dire que le but final de Dieu, du serviteur, du maître ici, ça n'était pas qu'il puisse simplement se multiplier lui-même, mais c'était de faire de lui un régnant. Et pas quelqu'un qui était toujours sous le règne de quelqu'un d'autre. Et Dieu t'appelle ce matin à devenir un régnant là où il t'a placé, dans la dimension où il t'a placé. Peu importe ta dimension, il faut que tu changes, il faut que tu comprennes la différence, car tu dois devenir un régnant. Et ce qui était incroyable dans ces deux serviteurs, c'est que ils ont tout misé, ils ont pas gardé pour eux, ils ont pas pensé à eux, ils ont pensé à multiplier la mine. Et moi, j'imagine qu'ils ont pris tout l'argent. Souvent, ils se sont demandé comment ils allaient faire pour nourrir leur famille, mais ils n'ont pas pensé à eux. Et Dieu, ici, le serviteur, les a récompensés parce que le fait qu'il leur laisse la mine, ça veut dire qu'il a pensé aussi à leurs besoins propres. C'est le symbole que ceux qui s'engagent pour le maître sont ceux qui vont avoir plus que les autres, parce que le maître est fidèle. Il va leur demander de régner, mais il ne va jamais oublier leurs besoins propres. Alléluia. Il ne va jamais oublier leurs propres défis personnels. Et c'est pourquoi le Seigneur ici nous montre que il est important de commencer à gouverner dans des petites choses. Il est important de commencer à être fidèle dans la tâche qui nous a été donnée. En un mot, être autonome, être responsable et être transcendant. Et alors, on peut se dire, mais pourquoi ils ont été choisis? Je crois que nous pouvons dire que nous avons tous été choisis. Mais nous sommes responsables de ce que nous allons faire avec cet appel, avec cette vocation. Les autres personnes ne pourront faire pour toi ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Alléluia! Parce qu'à partir du moment donné où ils le feront à ta place, ce ne sera plus ton résultat, ce ne sera plus toi. Et donc, ce sera eux qui auront la récompense. Et c'est merveilleux parce que le meilleur est à venir. Le meilleur de notre appel est à venir. Le meilleur pour notre pays est à venir. Le meilleur pour ta vie est à venir. Alléluia! Vous êtes là? Alors, de temps en temps, manifestez-le. Le meilleur est à venir. Dis-le à ton voisin, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alléluia! Parce que je vous ai présenté la perspective de l'eschatologie. Je vous ai présenté la perspective de votre appel. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien sur quelque chose. Maintenant, la troisième perspective, c'est la récompense. Dites avec moi, la récompense. Encore une fois, dis-le fort, la récompense. La récompense, dis-le encore avec moi. Alléluia, la Bible dit, aucun semeur ne sème sans avoir l'espoir de récolter un jour. Sinon, c'est un fou. Et moi, j'aimerais dire, quand je sème dans le Seigneur, quand je donne mon temps pour le Seigneur, quand je donne le temps parfois avec mes enfants pour aller faire des campagnes, quand je donne de mon argent, quand je donne de mes talents, je le fais parce que j'ai l'espoir de la récolte. Alléluia! J'ai entendu très souvent dans les églises en France, une théologie fausse qui dit, ah, il faut donner, mais il faut pas donner pour recevoir. Parce que ça, c'est pas bien. Alors, c'est vrai. On donne pas pour recevoir, parce qu'on donne par amour. Alléluia. Mais ne racontez pas de blagues. On donne quand même dans l'espoir. Dites avec moi, dans l'espoir. Dans l'espérance de récolter, parce que c'est la Bible. Au plus je donne, dit la parole de Dieu, au plus je récolte. Parce que si je donne peu, je récolterai peu. Mais si je donne beaucoup, si je me donne beaucoup, si je donne de mes talents beaucoup, je vais récolter beaucoup. Et non seulement je vais récolter des biens, mais je vais récolter de l'autorité pour régner encore plus. Parce que Dieu donne à celui qui a reçu et qui sait bien administrer ses richesses. Alléluia! Et c'est pourquoi moi je peux vous dire en face, je sais que Dieu me donne la France, parce que sinon je mourrai. Et avant qu'il me la donne, je lui prendrai tellement la tête qu'il devra bien me la donner. Alléluia! Mais en attendant, j'essaie d'être fidèle avec ce qu'il m'a donné. Et donc cette perspective de la récompense, c'est la perspective de ceux qui ont compris le royaume de Dieu. Des chrétiens qui ne sont plus des chrétiens passifs, qui ne sont pas des grenouilles de bénitier, mais qui sont dans la perspective de la récompense. Excusez-moi, je m'emporte un peu, parce que je suis à l'église, hein, c'est parce que je suis ici. Si j'étais dans une autre église, je paraîtrais un peu plus cool quand même. Hein. Ici, le roi lui dit, il y a une récompense. Mais la seule chose, c'est qu'il lui dit, attention, il y a une récompense, dites avec moi, il y a une récompense. Mais la seule chose, et là je vais vous introduire, je vous ai dit aujourd'hui que je vais vous introduire dans des clés qui peuvent bouleverser votre vie. Vous êtes prêts? Il y a une récompense. Mais la seule chose, c'est que la récompense suit toujours la loi de la proportionnalité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a une récompense, mais la récompense suit la loi, dites avec moi, de quoi? De la proportionnalité. Et ça, c'est pas socialiste, excusez-moi. Je fais pas de politique, mais c'est pas socialiste, c'est pas populiste. C'est pas la mentalité française, et c'est pas non plus capitaliste. Je suis pas là pour faire de la... Mais la Bible dit, il y a la loi de la proportionnalité. Si tu comprends ça dans ta vie, tout va changer. Et depuis que j'ai commencé à comprendre ça, j'ai moins peur. Quand tout à l'heure, Julien prophétisait sans le savoir en disant que je fais mes courses sur les Champs-Élysées, jusqu'à présent, ça m'est pas encore arrivé, je vous promets, mais je prends cela. Je le crois qu'un jour, je vais tellement semer, je vais tellement donner, je vais tellement enrichir autour de moi, je vais donner tellement de costumes, tellement de salaires, tellement de voitures, tellement de choses, qu'un jour, j'aurai suffisamment pour aller faire mes courses là-bas aux Champs-Élysées. Alléluia! Ce n'est pas mon but dans la vie. Mon but, c'est que le règne de Dieu vienne. Mais si le Seigneur me permet, eh bien voilà, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez me dire que vous n'aimeriez pas avoir cette expérience un jour? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie la loi de la proportionnalité? C'est une leçon extraordinaire. C'est-à-dire que le roi est en train de dire, écoutez-moi bien, je vais qualifier ton travail. Dites avec moi, qualifier. Savez-vous que Dieu va qualifier notre vie chrétienne? Ça n'est pas suffisant. Dieu dit, je vais qualifier ton travail. Je vais lui donner c'est comme une note, c'est-à-dire je vais l'éprouver, je vais le tester. Si tu me dis c'est pas biblique, mon œil, relis ton Nouveau Testament et tu vas voir quand le Seigneur dit que nous passerons devant lui et il va voir si nos œuvres ont été faites de paille, de chaume, de foin, d'argent, de pierres précieuses ou d'or. Nous allons être qualifiés devant le Seigneur. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'au verset 17, quelque chose m'a touché incroyable. Ici, le premier lui dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Le Seigneur lui dit, c'est bien. Dites avec moi, c'est bien. Là, il parle du fer, d'accord? C'est normal si ton employé, ton trader, il vient, il te dit, j'ai investi 1 milliard et j'en ai récupéré 10 milliards, tu vas lui dire, c'est bien. Si ton trader... Dans ta salle des marchés, c'est en ce moment, on en parle beaucoup de cela, n'est-ce pas? Il te dit, j'ai investi 1 milliard et j'ai perdu 5 milliards. Tu vas l'envoyer en prison. Il y en a un qui est en prison en ce moment en France. Il a failli couler la Société Générale. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que pourtant, vous allez dire, oh oui, mais c'est injuste. Le patron, il aurait pu avoir de l'amour. Parce que quand même, c'était son métier de prendre des risques comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Je vois pas pourquoi lui, il irait en prison. Et puis ceux qui ont perdu 200 000 euros, eux, ils iraient pas en prison. Ici, le maître dit, il dit c'est bien. Ça veut dire qu'il est en train de peser la qualité de son travail, du fer. Et comme vous savez, dans l'industrie, quand vous avez des produits qui sont bons, il y a des normes ISO 9000, ISO 9001, ISO 9007, c'est-à-dire des chartes de qualité dans les industries qui qualifient la qualité. Et donc, quand vous voyez sur un produit en achetant ISO 9000 et quelques, eh bien, vous savez que tout ce produit est passé par des tests, différents tests, et que vous pouvez l'acheter sans encombre parce que il y a des autres autorités qui ont décidé que ce travail était bien fait, que le produit était de qualité. Et avant qu'il sorte, ces produits subissent ces tests. Et alors, quand on dit ISO 9007, par exemple, ça veut dire c'est un bon produit. Et moi, j'ai pas envie d'acheter un produit où c'est écrit attention, danger. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais pas donner, si j'apprends que les jouets que je donne à ma fille sont pleins de colorants qu'on peut avoir dans la bouche et qui sont hyper toxiques, je serais pas content. Si c'est écrit ISO dessus, ça veut dire que c'est de la qualité. Et la Bible dit ici que le maître le reçoit et il va tester sa qualité, c'est la qualité de son travail. Mais ce qui m'a surpris, c'est que juste après, dites avec moi, c'est bien. Et juste après, il lui dit, verset 17, bon serviteur. Est-ce que vous remarquez la différence? Quand on dit c'est bien, ça veut dire tu as bien travaillé, mais juste après, le Seigneur va qualifier aussi la personne. D'abord, il qualifie le travail, et juste ensuite, il qualifie la personne. C'est-à-dire que Dieu qualifie ma vie, Dieu qualifie mon caractère, Dieu qualifie ce que je suis par ce que je lui ai démontré que j'étais capable de faire. Parce que très souvent, on ne peut pas faire quelque chose de bien très longtemps si on est mauvais. Et ici, Dieu ne sépare pas l'un de l'autre. Il qualifie d'abord le travail, mais ensuite le caractère, l'être, bon serviteur. Alors, bien souvent, on penserait que la qualification du travail serait suffisante, mais non. Le roi, ici, pour lui, ça n'est pas suffisant. Il sait qui il promeut. Il connaît celui en qui il a mis sa confiance. Et je vous rappelle, au début, il a mis sa confiance en 10 personnes, mais il se souvient de où il les a tirés. Maintenant que les mois sont passés, que tu as tant travaillé malgré toutes les épreuves, malgré que vous étiez nombreux et que vous n'êtes plus qu'un petit nombre, tu as travaillé, toi, avec la mine que je t'avais donnée. Et non seulement tu es capable d'en produire 10 ou d'en produire 5, mais tu es capable de produire un très très grand résultat. Parce que mes amis, passer de 1 à 10, c'est un grand résultat. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un merveilleux résultat. Voilà que le Seigneur lui dit, tu es capable de produire un grand résultat. Mais en plus, tu es resté près de moi. Tu as eu la crainte de moi. Tu savais que j'étais un maître sévère. Et donc, tu as agi en conséquence. Tu n'as pas attendu de ne rien faire, de profiter que je n'étais pas là. Mais au contraire, tu t'es activé dans l'espérance de mon retour. Tu as pris ton appel en main. Et tu t'es donné un grand mal. Tu t'es donné beaucoup de travail. Alors que d'autres sont allés se balader. Ils ont même surpris cet argent pour aller s'amuser peut-être en boîte de nuit. L'autre, il l'a mis dans son linge parce qu'il avait peur de faire des bêtises. Il disait toujours, je ne sais pas ce que je vais faire, de quoi je suis capable. Mais toi, mon serviteur, tu es resté près de moi. Tu as ajusté ton attitude à la mienne. Tu, comme moi, je ne me repose pas avant qu'ils soient tous sauvés. Toi-même, tu n'as pas donné de repos à ton âme avant que le résultat vienne. Et en ce faisant, tu as prouvé que tu m'aimais. C'est parce que tu as fait tout cela, même lors de mon absence, même lorsque tu ne sentais pas ma présence, que je sais aujourd'hui que tu m'aimes, que je sais aujourd'hui que tu me respectes, que je sais aujourd'hui que tu as compris qui j'étais, que je n'étais pas seulement l'homme d'affaires que tu as laissé passer, partir, mais que j'étais ce roi à venir qui vient maintenant pour régner. Et en ce faisant, tu m'as montré, bon et fidèle serviteur, combien ton cœur est droit, combien ton cœur est loyal, combien tu es sincère, combien tu es juste et combien tu es digne de confiance. Alléluia! Amen! On peut applaudir ce serviteur! On peut applaudir ce serviteur! Moi, je dis, c'est extraordinaire! Bon serviteur, tu restes le même quand tu n'as pas d'argent, quand tu es esclave, mais aussi quand tu as de l'argent. Tu es resté le même bon serviteur quand tu avais 10 mines qui valaient tant d'argent. Tu n'es pas parti. Tu as resté la même attitude humble, fidèle, le même caractère de travail. Mais le fait que tu as eu de l'argent et que tu étais libre grâce à cet argent, tu n'étais plus esclave parce qu'on ne donnait pas l'argent aux esclaves. Le fait que tu avais été affranchi, que tu étais converti dans une nouvelle vie, eh bien, tu n'as pas administré ta liberté à l'encontre de moi. Tu n'as pas administré ta liberté comme le font beaucoup, pour défaire ce que je t'avais donné, ou pour rester chez toi et mettre tes qualités dans un linge, ou pour annuler ce qui t'avait été donné, pour déprécier ce que je t'avais confié. Au contraire, bon serviteur, ton caractère est le même. Et tu me l'as prouvé aujourd'hui. Voilà ce que lui dit le maître ici. Bon serviteur, tes œuvres ont montré que tu étais bon. Alors le Seigneur ici, dans ce texte, n'attend pas que le faire, mais il attend que l'être aussi soit à la mesure de ce qu'il attend de nous. Mais il n'attend pas non plus que l'être, comme certains disent, ah ben moi je suis, j'aime, et puis ça suffit, il attend aussi, et je ne fais rien, il attend le faire. Tu ne peux pas valablement et durablement dire à Dieu, je t'aime et je reste sans rien faire. Celui qui fait cela devra passer. Vous savez, il y a des gens bienfaisants, et il y a des gens mal étant. C'est compliqué ça, hein? C'est juste pour nous faire réfléchir. Il y en a bien faisant et il y en a mal étant. Il y en a qui font plein de choses aussi, mais qui n'ont pas gardé cette fidélité intérieure. Et il y a des gens bien faisant et il y a des gens mal étant. Bien étant aussi dans le sens. Certains sont très bons pour faire plein de choses, ils sont comme des fourmis, ils travaillent. Mais lorsque vous observez le caractère, c'est un désastre. Ils font montre d'une malice jusqu'à n'en plus pouvoir. Il y en a. Mais ce roi qui a la mentalité de roi, il applique deux principes. Là, je viens de vous parler d'un principe qui est la proportionnalité. Vous vous souvenez? Et la proportionnalité ne dépend pas de où on part. Avec un centime, la proportion est importante. Un autre moment où Dieu parle de la proportion, c'est quand il y a cette femme qui donne cette petite pite et les autres le méprisent parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Et Dieu dit, elle a donné 50% de ce qu'elle avait alors que l'autre a donné son superflu. Là, c'est la proportionnalité aussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis ou pas? Vous êtes d'accord? Vous me dites pas oui pour me faire plaisir. Parce que ça va pas à l'encontre de notre mentalité française. Mais c'est biblique! N'oubliez pas qu'on est d'abord chrétien, ensuite français. Et ici, la mentalité que le roi applique, c'est une mentalité de roi. C'est l'évaluation du produit, du travail, et l'évaluation du caractère, le travailleur. Vous comprenez? L'évaluation de notre travail, ce que nous faisons, mais il y a aussi l'évaluation de ce que nous sommes. Et c'est ça la règle de la proportionnalité. Ici, le maître qualifie son travail, il dit c'est bien, et ensuite il qualifie la personne, il dit bon serviteur, parce que je peux voir en toi ton caractère, ta fidélité, comme tu t'es collé à la vision, au plan, à la confiance que je t'ai donnée. Et c'est à cause de ça, et à cause de cette fidélité, à cause de ton caractère, que ta récompense, dites avec moi, ta récompense sera proportionnelle. Dis-le avec moi, sera proportionnelle. Amen. Parce que j'ai pu te confier pour ça, je sais que je vais pouvoir te confier plus. Et c'est puisque ta récompense va être proportionnelle à ce que je t'ai confié, tu as eu une mine, t'en as fait 10, tu vas récolter 10 villes. Alléluia! Il regarde l'autre, il dit, t'as eu une mine, t'en as pris 5, t'auras 5 villes. Et l'autre, tu as pris une mine, tu n'as rien fait avec cela, eh bien tu n'auras rien. Non seulement je te prendrai la mise de départ, les dons que je t'ai donnés, tu n'auras plus la joie de servir, tu ne seras plus bon parce que tu es mauvais, tu n'auras plus de plaisir dans la vie parce que je te prends. Non seulement je ne te donne pas de ville, non seulement je ne te récompense pas, mais je te prends cette mine parce que si je le donne à l'autre qui en a 10, lui maintenant avec 2 mines plus 10 villes, il va en faire 100 ou 200 ou 1000. Et ça, c'est la loi de la justice divine. Et c'est pourquoi ceux qui sont jaloux n'ont rien compris à la vie. Parce que ça sert à rien d'être jaloux. Pour avoir ce que l'autre a, il faut t'efforcer comme il s'est efforcé, c'est tout. Il faut croire comme il a cru. Il faut payer le prix comme il a payé le prix. La comparaison n'est pas de Dieu. Le roi fait une analyse intégrale du faire et de l'être afin de pouvoir récompenser. Dites avec moi, récompenser. Parce que c'est très important, le roi veut nous récompenser. Mais souvenez-vous que nul ne peut prétendre à une récompense avant qu'il n'ait d'abord été qualifié. Vous m'écoutez? Nul ne peut prétendre à une récompense avant qu'il n'ait d'abord été qualifié. Tu ne peux pas avoir un diplôme avant d'avoir tout fait et obtenu la réalité de ce diplôme. Alors ce qui m'est paru extraordinaire dans ce texte, mes amis, et je voulais vous le partager, c'est qu'il n'a pas repris à l'homme les mines produites. Je vous l'ai déjà dit, il leur a laissé. Ça aurait été légitime. Mais il lui dit, comme tout investisseur, mais là, il voudrait reprendre ses intérêts. Lui, le maître ne fait pas ça. Il dit, je viens avec de bonnes nouvelles. Dites avec moi, je viens avec des bonnes nouvelles. Alléluia. Je viens avec des bonnes nouvelles pour ta vie, lui dit ici. Je viens avec des bonnes nouvelles. Je t'ai donné des mines, mais cette fois-ci, je te confère un nouvel élan. Je te confère un niveau nouveau d'autorité. Un niveau plus haut d'autorité. Amen. Dites avec moi, un nouveau niveau. Encore une fois, dis avec moi, un nouveau niveau. Alléluia. Celui qui a été fidèle dans ce que le Seigneur lui a dit, un jour ou l'autre, il va recevoir un nouveau niveau d'autorité. Alléluia. Quelque chose va se passer. On va l'appeler, il va être élevé, non pas seulement pour gérer quelque chose, mais pour gouverner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, le maître avait encore plus confiance dans son serviteur. C'est-à-dire que malgré les risques que ce serviteur avait pris pour le roi, il n'avait rien perdu. Non seulement il avait encore gardé son argent, non seulement sa famille était mieux, mais en plus maintenant, pas seulement il avait de l'argent, il avait multiplié, mais maintenant il avait une position. Dites avec moi, une position. Alors dans notre pays, on est tellement médiocre souvent que souvent les gens disent « Oh ben moi je m'en fous, c'est pas ce que je recherche. Moi je suis humble, je suis content avec ce que Dieu m'a donné. » Ça c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Ça c'est pas de l'intelligence, c'est de la bêtise. Parce que Dieu nous appelle à dire ensemble « Viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Et Seigneur, si ton règne vienne, il va bien falloir quelqu'un pour régner. » Quand Dieu va établir son règne sur la terre, vous allez faire quoi? Balayeur ou vous allez gouverner les villes aussi? Parce qu'on est encore longtemps là. C'est pas qu'après on va avec les petits anges et puis on va voler autour des nuages pendant l'éternité. C'est pas ça le paradis, hein? Sinon j'ai pas envie d'y aller. La Bible dit je ferai des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça va être génial. Et moi je veux être bien placé parce que la Bible me donne cette possibilité en fonction de ce que je vais faire. Alléluia. Alléluia. En travaillant pour le Seigneur, cet homme-là, finalement il était très étonné parce qu'il pensait qu'il allait peut-être avoir sa commission. Et le maître vient et il le promeut à une autorité de gouverneur, de président de communauté de communes. Il y a une leçon incroyable que cet homme a peut-être compris. Écoutez-moi bien cela. En travaillant pour le Seigneur, cet homme ne s'était pas rendu compte qu'en fait il était en train de travailler pour lui. Vous m'écoutez? En travaillant pour le Seigneur, cet homme ne s'est pas rendu compte qu'en fait, il était en train de travailler pour lui. Et ça, c'est le mystère de la grâce. Tu passes du temps pour ton Seigneur et finalement, tu es en train de travailler plus pour toi que pour lui. Parce que ton caractère change tellement, ton exemplarité est tellement belle que tu attires les gens autour de toi. Les autres verront leur adolescent s'en aller et toi, tu les verras revenir tous un par un. Parce que tu t'es concentré sur le Seigneur. Les autres verront une tempête détruire la maison qu'ils ont passé toute leur vie à construire parce qu'ils n'étaient concentrés que sur cela. Et toi, non seulement tu verras cela, mais Dieu t'ajoutera encore des terrains et des terrains. Tu deviendras toi-même constructeur et tu seras tellement béni. Alléluia. Parce que en travaillant pour le Seigneur, c'est alors que tu travailles pour toi sans le savoir. Vous voulez le répéter avec moi ça? Si je travaille pour le Seigneur, je suis en train de travailler pour moi sans m'en rendre compte. Il faut le comprendre. C'est la logique de la foi. Quand je fais des choses pour celui qui m'a demandé de les faire, quand je sers le Seigneur ou que je sers ceux qu'il a mis en autorité sur ma vie. Parce que c'est ça, servir le Seigneur. C'est pas dire, ben tiens, moi je veux servir moi, j'attends que mon appel. Non, non, Dieu nous teste d'abord en servant ceux qu'il a appelés. Il a fallu que ses serviteurs servent celui qui avait été appelé à devenir roi. Vous allez dire, pasteur, comment t'en es arrivé là? J'ai servi les autres toute ma vie. Ça, c'est la loi qu'on n'aime pas entendre en France parce que, ah, non, non, moi, je me sers, moi, moi. Non, 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 on parle pas d'indépendance quand je sers le Seigneur ou quand je sers ceux qu'il a mis en autorité sur ma vie. En fait, je suis en train de me servir moi-même. Ce que je fais pour lui, je le fais pour moi. Ainsi, tout le fruit peut être mien, mais avec la qualité que je lui ai mis. La qualité que je lui ai mis, c'est ça encore la loi de la proportionnalité. Quand j'ai mis moins de qualité, si la qualité a baissé de mon travail, c'est pour moi. Et si la qualité a augmenté, c'est pour moi aussi. Vous comprenez? Dans tout ce que je fais, si je mets pas beaucoup de qualité, pas beaucoup de cœur, c'est pour moi. Je récolterai en fonction de cela. Si j'y mets le maximum, c'est pour moi aussi. Celui qui s'efforce au piano, il s'entraîne toute la semaine. Soudainement, il lève, et un jour, on l'appelle à jouer devant un stade ou à la télévision. L'autre qui dit, oh, je m'en fous, je fais juste ça, puis de temps en temps, je pratique un petit peu. C'est pour lui. Il récoltera parce qu'au moins, il sert le Seigneur, c'est bien, mais il récoltera dans la dimension qu'il aura. Si la qualité de mon travail a baissé, c'est pour moi. Si la qualité a augmenté, c'est pour moi aussi. Ça, ça fonctionne, je vous l'assure. C'est exactement comme je vous le dis, c'est comme ça. C'est la loi du royaume de Dieu. Et ce qui lui est dit ici, par le maître, c'est que maintenant que je suis roi, j'ai le pouvoir de t'apporter des villes, plus seulement de t'apporter une mine. Et c'est pourquoi si tu as la relation avec ton Seigneur et que tu le vois pas seulement comme ton simple sauveur, mais aussi comme ton roi et comme ton souverain, alors tu sais qu'un jour, quand il va te rapporter la récompense, ce qu'il va rapporter, c'est son règne. Il va rapporter du règne. Dites avec moi, du règne. Et tu vas me dire, ah ouais, mais il faut être humble, faut pas vouloir ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est le diable qui t'a mis ça dans les oreilles pour que notre pays ne change pas. Mais que moi, je veux la récompense. Et si un roi m'apporte de la récompense, si un roi veut me promouvoir, le président, quand il veut promouvoir quelqu'un, il le met député ou il le met ministre. On est d'accord? Donc Dieu a pour moi du règne. Et alors mon existence prend tout son sens. Parce que la Bible, je pourrais dire avec le Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que la différence entre une mine et une ville, c'est très grande. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'une ville, c'est du gouvernement, c'est de l'administration, c'est un puits de ressources énorme. Et ce que le roi est en train de faire ici, c'est de faire passer notre homme d'un état d'homme d'esclave, ensuite d'homme d'entreprise. Mais non seulement d'homme d'entreprise, ensuite il veut lui faire passer l'état d'homme d'affaires, et ensuite de gouverneur. Dites avec moi, gouverneur. Vous vous rendez compte? D'un esclave, ces gens, ils étaient rien. Tout le monde se moquait d'eux. Ils n'avaient pas les études, ils étaient esclaves. Et il devient gouverneur. Alléluia. Quelle belle destinée, il devient gouverneur. Et le Seigneur ici lui dit, le maître lui dit, je te donne de gouverner. Et non seulement une ville, mais tu en auras 10, parce que chaque ville aura son maire. Mais toi, tu gouverneras tous ces maires-là. Tu seras l'administrateur général. Alléluia. Proportionnellement à ce que tu auras mis. Et ce matin, je crois que Dieu veut élever des gens à un autre niveau ce matin ici dans cette salle. Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie, j'ai l'impression, il y en a même qui dorment. Ce matin, Dieu veut en élever des gens à un autre niveau ce matin, amen! Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être... Moi Seigneur, plus de feu, plus d'onction, plus de gloire! On me dit toujours, mais pasteur, pourquoi tu dépenses autant d'argent à la Pentecôte, 320 000 euros cette année, mais comment on va faire? Parce que je veux l'excellence pour le Seigneur, alléluia! Parce qu'il y a des endroits où les gens du monde qui sont habitués à l'excellence ne viendront pas dans nos vieilles églises miteuses, mais ils viendront là où on pourra leur parler de gouvernement, alléluia! Et l'année dernière, Dieu nous a donné de pouvoir prêcher non seulement à la conférence, mais à M6, à 7 millions de personnes! Alléluia, parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau, mais est-ce que tu le veux? Ou est-ce que tu es comme la majorité des moutons à vouloir dire, j'ai pas le temps. Alléluia, moi je veux pas être comme ça, je me parle à moi, c'est pas à vous que je parle, excusez-moi sur la sémantique, je suis à l'église. Hein. J'aurais dû dire moi, et je me le dis à moi. Dieu veut élever des gens ce matin. Dieu veut vous donner l'opportunité d'un appel, l'opportunité d'une compréhension de la vocation pour que vous puissiez être libre. Parce que tout est affaire de liberté. Dieu veut que vous soyez réellement libre. Libre de développer, libre de vous multiplier, libre de vous développer, libre de mettre en œuvre ce que le Seigneur vous a donné, libre de marquer jusque où vous voulez aller. Alléluia! Et je vous assure que ceux qui s'efforcent ainsi recevront leur responsabilité, leur récompense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis libre, alors je fais ce que je veux, je m'engage pas trop, etc. Puis finalement ils s'aperçoivent qu'ils vont être liés par les autres. Parce que nous sommes nés pour gouverner. Adam, la première chose que Dieu lui dit, ne sois pas, il n'a pas dit, ne sois pas un administrateur ou profite de la terre. Il lui a dit, gouverne. Quand il fait le couple, il parle au couple, il dit, dominez. Vrai ou faux? Quand on est né de nouveau, il dit même la femme qui était dans une condition, dans la religion, la femme est vraiment moins que rien. Quand Jésus vient, il fait la rédemption de la femme et il lui dit, tu écraseras la tête. La quoi? La tête? Ça veut dire quoi la tête? C'est le symbole de quoi? De ceux qui sont les gouvernants, de ceux qui dirigent. Quand on dit la tête d'une entreprise, la tête d'une nation, c'est le chef. Ça veut dire que la femme, par la puissance de Dieu qui bouge pour le Seigneur, qui s'avance pour le Seigneur, qui se donne, elle va écraser toutes les autorités qui sont levées contre elle et qui ont fait d'elle qu'elle était qu'une esclave. Dieu ramène la femme dans sa véritable dimension de gouvernement avec l'homme. de domination avec l'homme, parce que la Bible n'a pas dit que la Bible dit vous gouvernerez ensemble. Nous sommes nés pour gouverner. Nous ne sommes pas nés pour être toujours sous l'influence de la volonté des autres. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on se bat pour cela parce que Dieu me l'a dit et je ne lâcherai pas. Amen. Mais à chaque fois qu'on fait une demande, on fait 6 mois de travail, on dépose un dossier parce qu'il y a un franc-mac qui est tout là-haut placé, il dit « Ah non, c'est des protestants, j'en veux pas ». Il a l'autorité pour dire non et on perd à chaque fois 6 mois de travail. Si bien que je suis en train de trouver des solutions, mais le jour viendra où c'est nous qui déciderons de ce qui se passe et qui recevrons les dossiers et qui diront « Cette boîte homosexuelle, ce sera non !» Cette boîte-là de péché où les jeunes vont en dépravation, ce sera non. Nous aurons l'autorité parce que nous sommes nés pour gouverner. Et si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas changer notre pays. Vous comprenez, ma chère Église? Si tu ne le veux pas, c'est ton libre choix. Mais moi, je sais que je passerai devant le Seigneur. Nous avons des talents que Dieu veut que nous développions pour notre pays. Vous comprenez? Alléluia. Mais il faut commencer maintenant, déjà, par les petites choses qu'il ne faut jamais mépriser. Avec les petites choses que vous avez, mettez les principes de gouvernement que je vous explique dans ta famille. Une attitude de multiplication, une intelligence financière. Dites avec moi, intelligence financière. Mettez de la qualité dans la gestion de vos finances. Je vous le dis, j'ose en parler, c'est pas tabou. Mettez de la qualité dans la gestion de vos finances. Faites attention à qui vous donnez. Il y a des gens, c'est des puits sans fin, faut pas leur donner. Comment vous comptez? Comment vous devez avancer? Dans le métier de la qualité, dans la gestion, évitez les intérêts quand vous vous prêtez les uns aux autres entre chrétiens. Apprenez avec ce que Dieu vous a donné à multiplier. Bien sûr, il faut garder une poire contre la soif, mais une petite poire contre la soif. Le reste, il faut l'investir. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut entreprendre. Il faut prendre des risques. Dire, Seigneur, ce que tu m'as donné. Parce que on ne peut pas prétendre d'aller plus haut sans qu'en premier lieu, on ait su s'occuper de ce qui est en dessous. On ne s'occupera jamais de en dessus tant qu'on n'est pas capable de gérer ce qui est en dessous. Quand des gens ont voulu faire le piratage de notre église, ils avaient misé sur le fait que le Seigneur m'appelait pour les nations et que j'allais peut-être partir. Et donc, ils étaient sûrs qu'ils y parviendraient. Mais je savais une chose, c'est que si je ne m'occupais pas bien de ce qui est en dessous, c'est-à-dire ce qui a déjà été fait, à quoi ça servait d'aller plus haut? Que ferais-je aujourd'hui si j'allais parcourir le monde et que nous, notre famille, on n'était pas protégés, on n'était pas bien ensemble, on n'était pas heureux comme on le sent ensemble en ce moment? Il ne passe pas une semaine sans que certains d'entre vous vous m'appelez presque en pleurant en disant « C'est génial, l'église, c'est pas l'église, on devrait même plus l'appeler comme ça, c'est la famille !» Amen, alléluia. Qui sent qu'ici c'est la famille. Ici c'est une église qui a une vocation. Ici on a un appel. Et moi je veux être au bon endroit. Alléluia. Moi je veux être au bon endroit comme disait Anne-Marie tout à l'heure. Elle m'a touché, elle savait pas pourquoi elle disait ça. Mais elle le disait tout à l'heure. J'aimerais bien que... Bon alors elle a fait une allégorie un peu particulière. N'est-ce pas comme s'il y avait le Père, le Fils et puis il disait Bill et Boule ça va. Enfin, c'était une allégorie, n'est-ce pas? Bien sûr Dieu est un. Mais quand même, elle a dit tout à l'heure quelque chose d'incroyable. Ah, oh, j'aimerais bien que... Ils sont en train de dire, mais t'as vu mon église d'Honfleur, comme ils nous prient. Vraiment, on peut pas faire autre chose que de les bénir, ceux-là. Alléluia. Moi, quand on a une vision comme ça, ça m'excite. Alléluia, parce que c'est la vision du règne de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire de ma vie? Quel serviteur vais-je être, là, dans cela? Le Seigneur nous demande de prendre soin de notre église. Comment tu veux gouverner sur une ville si tu ne prends pas soin de ton couple? Comment tu veux avoir être promu à des postes d'autorité, même dans l'Église ou dans le monde, ou avoir des augmentations si tu ne sais pas bien gérer tes finances? Dieu ne peut pas te les donner. Et comment peux-tu te multiplier si tu n'as pas appris à donner? On me dit toujours, mais comment tu fais? Parce que je dis, au plus j'ai des défis financiers, au plus je donne. Mais oui. Et c'est le Seigneur qui multiplie. Il y avait des gens très puissants qui sont venus pour donner beaucoup plus d'argent pour ces choses-là. Les gens à Honfleur disent « Non, c'est pour le pasteur de Coster. » Vous comprenez? Quand est-ce que les gens vont dire, non, c'est pour toi? C'est quand le roi aura dit, c'est pour lui, alléluia. Et ce que tu apprends à gouverner aujourd'hui, la multiplication du peu, puis d'un peu plus, puis de plus en plus, puis de beaucoup plus, puis énormément. Et c'est pourquoi la Bible dit de ne pas mépriser les commencements. Alors celui qui s'efforce moins ne peut prétendre à une récompense supérieure. Et donc Dieu nous donne le même talent, nous donne le même cœur, le même esprit, mais ensuite l'effort, c'est le nôtre. Alors le troisième gars là, il est quelle heure là? Parce que j'ai pas de montre ici. 12h30. Je crois que je vais terminer aussi la semaine prochaine. Le troisième gars, lui c'est un cas. C'est un cas, lui le troisième gars. Parce qu'il lui dit, oh, mon Seigneur! Il flippe un peu parce qu'il n'avait pas pensé qu'il reviendrait roi. Il pensait qu'il allait voir son pote qu'il connaissait, ou son maître qu'il connaissait. Alors il vient, il sort de sa poche son mouchoir. Et puis là-dedans, il y avait une mine. Il lui dit, oh, mon Seigneur, tiens. Voilà ta mine. Voilà le salut que tu m'as donné. J'étais esclave, tu m'as donné une mine, donc j'étais supérieur. Je l'ai gardé, je l'ai bien gardé, j'ai été fidèle. Pendant toute ton absence, j'ai rien fait de mal. Mais je veux quand même te dire que j'avais quand même eu peur de la perdre, hein, parce que si je l'investissais, j'allais risquer, je pouvais perdre. Et puis moi, je devais calculer combien, si j'arriverais à payer après l'appartement, si j'arriverais à payer la voiture, si j'arriverais à payer tout ça, si j'investissais. Puis j'ai vu que la rentabilité n'était pas, c'était pas très très sûr, il y avait quand même des risques. J'ai eu peur parce que ta présence m'effraie. J'ai peur de toi. J'ai peur et la peur que j'ai de toi est en train de lui dire sans oser l'avouer, elle a tordu ma vision. Elle m'a donné une drôle de vision, elle m'a donné une mauvaise vision, la peur que j'ai de toi. Tu es un homme juste qui récolte où il n'a pas semé, qui est sévère. Mais moi, j'ai craint ta rigidité et je ne me suis pas approprié de ta mine. Je l'ai gardée bien au chaud. Je l'ai mise dans mon mouchoir et la voici, mon Seigneur. Voilà ce qu'il va lui dire. J'ai eu peur, dites avec moi, j'ai eu peur. Il n'y en a que deux qui osent le dire. Dis avec moi, j'ai eu peur. Dites-le encore une fois, j'ai eu peur. Vous savez, nous pouvons juger facilement notre bon bonhomme là. Mais bon, il était quand même meilleur que les sept qui ne sont pas revenus. Au moins, il est resté là. On pourrait dire, au moins, il était à l'église, quoi, hein, pour rigoler, pour dire quelque chose. Car celui-ci, au moins, il est venu. Celui-ci, au moins, il est venu rendre des comptes. Seulement, il est venu en étant mal. Il est venu mal. Il est mal venu. Il avait une vision erronée, une vision trompée du royaume, trompée de son maître. Comment va-t-il oser dire à celui qui lui a donné une mine, qui lui a semé tellement d'argent dans sa vie, qu'il récolte là où il n'a pas semé? Vous avez vu sa phrase? Il dit, j'avais peur de toi. Dites avec moi, j'avais peur. Et il lui dit ensuite, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Alors moi, j'étais époustouflé. Le gars, il reçoit, on lui sème une mine. On lui sème de l'argent, on lui sème du don, on lui sème du temps, on lui sème la santé, on lui sème tout, la confiance de passer d'esclave à affranchi. Et puis il va dire, oui, mais toi, tu récoltes là où t'as pas semé. Il avait déjà oublié qu'il avait même lui reçu la semence du maître. C'est comme les gens, tu leur donnes du temps, tu leur donnes un conseil, puis après ils viennent te voir, ils disent, ah, tu n'as rien fait pour moi. Moi, j'en entends souvent. Ah, mais t'es pas assez avec moi, tu n'as rien fait pour moi. On a dû se débrouiller seul, mais quelle vision. Alors, il est gonflé celui-là. Il dit à celui qui lui a donné plus d'argent que les autres, plus de confiance que les autres, qui lui a donné une opportunité de travail, qui lui a donné la possibilité d'être ce qu'il n'avait jamais été avant. Il était tellement imbu de lui-même qu'il dit, tu récoltes ou tu n'as pas semé. Moi, je crois qu'il n'est pas très bien dans sa tête. Hein. On dirait tête d'ampoule, quoi. Hein. Tête de nœud ou... tête d'épingle, tête d'œuf. comment moi qui t'ai donné cet argent, cette mine qui est investie en toi, c'est à moi que tu viens de me dire que moi je ne sème pas, que je prends là où j'ai pas déposé. Il lui prend même pas la peine de lui répondre comme ça. Il lui dit, bon, tu as raison, hein. Crois ce que tu veux, puisque tu es tellement convaincu. Tu as raison, je sème, je récolte là où j'ai pas semé. Tu as raison, je prends là ce que j'ai pas déposé. Tu as raison, je suis un homme sévère. Tu as raison, continue de me voir comme ça. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais c'était tout le contraire. Là, ici, le maître prend même pas la peine de lui expliquer. Il était tellement borné, il était tellement apeuré. Dites avec moi, j'avais peur. Et ce gars-là n'a pas vu que c'était précisément en lui que le roi avait semé et qu'il était en train de semer. Il n'était pas très bien, mais il lui dit, mais comment? Comment tu as pu croire que tu avais moins de capacité pour les autres? Pourquoi les autres, ils ont pris la même mine, le même argent, dans la même époque, dans la même période, dans le même marché économique, et eux, ils ont multiplié par 10 ou par 5, et toi, tu n'as rien fait? Va me dire qu'il y a un problème peut-être. Tu vas dire que c'est le marché, tu vas dire que c'est les autres, c'est ta femme qui t'a empêché. Mais quand même. Et là, lui, il pensait que... Il n'avait pas bien compris. Il ne se souvenait plus que celui qui avait semé en lui, finalement, c'était le roi. Le même qui lui a donné de l'argent, qui n'était pas le sien. Il ne reconnaît déjà plus que c'est ce même roi qui lui avait donné l'argent. Il est oublieux, il n'a plus été reconnaissant. Combien de gens ne sont pas reconnaissants, ils se souviennent plus d'où ils ont, et dès qu'ils ont un salaire, alors après ils commencent à le prendre pour eux, ils viennent plus à l'église. Nous on a vu tellement de gens comme ça. Dès que leur coupe va un peu mieux, alors après ils partent en vacances tout le temps, ils viennent plus à l'église, et puis il n'a pas su rendre grâce, il n'a jamais été reconnaissant celui-là. Il n'a même pas su rendre ce qu'on lui avait confié, il l'a laissé pourrir. Parce qu'il s'est toujours vu lui-même comme il était avant, un esclave. Il n'a pas réalisé qu'il avait plus, et donc qu'il était responsable de plus, et que le maître lui avait confié plus. Et si c'est à toi qu'il l'a donné, alors ça lui donne le droit de venir te réclamer des comptes. Et c'est ce que fait le roi ici. Même si le roi voulait juste savoir, il voulait pas lui reprendre, lui pensait qu'il voulait lui reprendre, alors avant qu'il lui demande « rends-moi la mine », il lui rapporte. Les autres, ils lui ont pas rapporté la mine, ils ont rapporté la récolte. Le roi n'avait demandé la mine à personne, il avait redemandé l'argent, il voulait juste savoir. Mais rien que juste savoir, demander des comptes, ça leur faisait peur. Moi j'ai vu beaucoup de gens, quand on leur demande des comptes de leur travail, ils sont tout apeurés. Alors sur le point de vue de la vocation, ce troisième compare, c'est quelqu'un qui disait « je ne suis pas apte ». Je ne suis pas apte, je ne sais pas développer, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Moi, je prends pas des risques comme ça. Et plus encore, je justifie ma position en amenant un langage déficient. En amenant un langage défaitiste, une distorsion de l'image réelle. Et tout cela parce qu'en fait, je suis rempli de peur. Voilà ce qu'il est en train de dire au Seigneur. Et beaucoup de gens trouvent cette attitude acceptable, voire spirituelle. Seigneur, j'ai eu la crainte de Dieu. Hein, je suis resté fidèle, j'ai donné ma petite dîme tous les dimanches. Mais vous savez, vivre dans l'acceptable et vivre dans ce qui est juste, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Vivre dans l'acceptable et vivre dans ce qui est correct, dans ce qui est notre vocation, ça n'est pas la même chose. Et mes amis, on trouve souvent des attitudes qui justifient l'acceptable. Mais notre Seigneur n'est pas le Dieu de l'acceptable. Il est le Dieu de l'exceptionnel. Alléluia. Il est le Dieu de la qualité. Il est le Dieu de ceux qui s'efforcent, de ceux qui multiplient. Je crois que je terminerai la semaine prochaine, où je vais vous parler la semaine prochaine sur une autre vérité spirituelle qui va vous permettre de décider de quel bord vous voulez être et de comment vous développer avec ce que le Seigneur vous a donné. Amen. Mais je vous rappelle aujourd'hui ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que le Seigneur nous a donné une vocation céleste. Et non seulement une vocation céleste, mais il nous a donné une vocation terrestre. Vous m'entendez? C'est pas encore tout à fait fini. Une vocation terrestre. Il veut faire de nous des régnants. La semaine dernière, je vous avais parlé de la réalité de l'eschatologie, la réalité de l'appel et de la réalité que Dieu va nous demander des comptes. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la récompense. Amen. C'est que Dieu, tout ce qu'il fait en nous, c'est dans le but de nous récompenser. Comprenez cela. Tout ce qu'il fait en nous, c'est dans le but de nous récompenser. Dis-le avec moi, c'est dans le but de nous récompenser. Même notre salut, c'est dans le but de nous récompenser. Car Dieu est un bon Père. Et que Dieu va qualifier notre travail. C'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. Dites avec moi, qualifier mon travail. Et qu'en fonction de la qualification de mon travail, il va me qualifier. Dites avec moi, me qualifier. Et qu'il me qualifiera pour me récompenser, pas pour me punir. Parce que Dieu n'a pas dans son idée de nous punir, puisqu'il a l'espoir qu'on sera tous des bons serviteurs. Et moi j'ai l'espoir qu'ici on est tous des bons serviteurs. Et j'espère que je le serai. Donc Dieu, dans son but de nous récompenser, il veut être juste. Et donc il qualifie notre travail pour nous qualifier et nous récompenser en nous faisant passer à un autre niveau. Un niveau d'autorité, un niveau de gouvernement et un niveau de prospérité de notre personne. Et lui qui est roi récompense par du règne, par son règne qu'il veut nous donner. Et c'est alors qu'il utilise pour nous récompenser la loi de la proportionnalité. Et cette loi de la proportionnalité, c'est afin de manifester sa justice et sa générosité. Ainsi, celui qui aura beaucoup donné, recevra beaucoup. Celui qui n'aura pas donné, on lui prendra même ce qu'il a. Celui qui aura beaucoup semé, il récoltera beaucoup. Celui qui sèmera peu, il récoltera peu. Celui qui aura beaucoup aimé, on l'aimera beaucoup. Celui qui aura beaucoup honoré, beaucoup respecté, il sera beaucoup honoré, beaucoup respecté. C'est la loi de la proportionnalité. Mais qui va dans les deux sens, dans le sens de la multiplication et dans le sens de la déduction. Parce que la Bible dit aussi que ceux qui ont été trouvés avec des mauvaises œuvres, des méchantes attitudes, sont qualifiés méchants. Et ceux qui ont bien fait, ils démontrent qu'ils sont bons. Et ceux qui ont mal fait, ils démontrent qu'ils sont malvenus, qu'ils ont été méchants. Or, aux méchants, la punition, la rétention des choses et le feu éternel, dit la parole de Dieu. Et si c'est pas le feu éternel, dans le cas de ceux qui quand même auront juste eu le salut, il y aura le feu de leurs œuvres. Et là, ils vont devoir justifier. Et moi, c'est grâce à ça que je crois encore plus que jamais à la justice de mon Dieu. Parce que si cette terre si injuste ne nous promet pas la justice de la récompense de Dieu, alors à quoi ça sert tous nos efforts? Et c'est pourquoi, depuis que je comprends cette mentalité biblique, on donnera à celui qui a et on reprendra à celui qui n'a pas. Ça m'encourage à aller toujours plus loin. Et maintenant, je n'ai plus honte qu'on me critique parce que j'ai des chaussures qui brillent. Et alors qu'avant, j'avais des chaussures qui disaient « Alléluia » dès que je marchais comme ça. « Alléluia, Alléluia ». Eh bien, gloire à Dieu. Je vous dirai pas si je les ai achetés en solde ou pas. Mais maintenant, moi, je me concentre sur une chose. C'est gouverner ce que le Seigneur m'a donné, être fidèle au maximum. Et j'espère que Dieu donnera à notre Église de gouverner et gouverner et gouverner encore plus. Alléluia! Peu importe qu'on soit perdu. Il y a des gens qui disaient, ah, si vous voulez aller à l'église d'Honfleur, c'est là-bas. C'est, je vous dirai pas, même pas l'expression. C'est le perdu. Comment ils disent dans le... Si, ils disent ça. Elle veut pas, Anne-Marie, que je vous le dise. Parce qu'ils disent, c'est perdu dans le trou du cul du monde, ici, ils disent. Hein? C'est ce qu'ils ont dit. Excusez-moi, hein. Je suis à la maison, hein. Il y a des gens qui disent ça sur notre église. Ça nous empêche pas quand même d'influencer la France. Alléluia! Parce que Dieu nous a appelés à régner! Et parce que Dieu nous a donné un avenir! Un avenir dont nous ne serons pas tristes. Alléluia! Qui ici veut se lever comme un seul homme en disant Seigneur, moi, Seigneur! Alors levez-vous! Si je vous dis qui veut se lever. Alléluia! Qui ici dit moi, Seigneur, je vais changer ma mentalité. Je tronque ma mentalité de pauvreté pour une mentalité du royaume. Alléluia. La semaine prochaine, je vous parlerai de la mentalité de la pauvreté. Alléluia. La semaine prochaine, je vais vous parler d'une autre chose. Encore de quelques clés. Je suis pas en train de vous parler de l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche, c'est le royaume de Dieu. Vous avez compris ces choses-là? Alléluia. Mais d'un autre côté, c'est quand même un élément essentiel. Celui qui ne sème pas montre qu'il est attaché encore, qu'il a peur. Et la semaine prochaine, je vais vous parler sur les peurs. Et sur l'amour de l'argent. Ni amour, ni peur. Dites avec moi, ni amour, ni peur. Dites-le encore avec moi, ni amour, ni peur. Ce sera le thème du message la semaine prochaine. Alléluia. Et je vais vous donner des clés pour pouvoir grandir. Alléluia. La semaine dernière, Kalou, hein, tu es venu, tu avais des problèmes apparents qui en fait n'étaient qu'une des opportunités. Il est venu, il m'a dit, pasteur, là, je te confesse, c'est un peu difficile, un peu. On a travaillé, il a travaillé pour le Seigneur. Je lui ai dit, garde-toi, n'aie pas peur. Je lui ai rappelé la semaine suivante, il m'a dit, j'ai pas peur, c'est bon. Et Dieu avait déjà commencé à agir. Alléluia! Alléluia! Et il y a quelque chose que Dieu va vous donner. Parce que pour être des régnants, il faut pas avoir peur de s'engager. Pour passer dans une nouvelle dimension, faut pas avoir peur du travail. Pour aimer plus, faut pas avoir peur de se donner. Pour faire mieux, il faut pas avoir peur d'apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus avoir peur de. Et même si on est des Normands, peut-être ben cuits, peut-être ben que non, un jour il faudra bien qu'on se décide. Alléluia, parce que notre travail va être qualifié. Alléluia. Alors je vous le répète, notre travail sera qualifié. Et il qualifiera notre être. Et nous aurons une récompense proportionnellement à nos efforts. C'est facile à comprendre. Notre travail sera qualifié et il déterminera la qualification de ce que nous sommes. Bon ou méchant, même si on est chrétien, parce que ces gars-là, c'était tous ils étaient proches du maître, ils étaient tous sauvés, ils avaient tous le même don, ils avaient tous la même base. Il y en a qui ont été appelés méchants, et d'autres qui ont été appelés bons, d'accord? Et notre récompense que Dieu veut absolument nous donner sera proportionnelle à notre effort. Dites avec moi le mot effort. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur va nous bénir, mais il veut que nous régnions. Et je peux vous dire que on n'a pas besoin d'être nombreux pour changer le cours de l'histoire. On n'avait pas besoin d'être nombreux pour faire la Pentecôte qui devient maintenant l'événement le plus poignant de l'histoire en France. Alléluia. Et c'est pas à cause de nous, c'est à cause du Seigneur. On est d'accord? Mais heureusement qu'il y en a qui ont persévéré. Et c'est pourquoi je peux me permettre de vous prêcher à vous cette église, parce que je suis persuadé que dans cette église, il n'y a que les premiers et les deuxièmes serviteurs dont on avait parlé. J'en suis persuadé qu'il n'y en a aucun qui va se barrer encore, qu'on ne retrouvera plus jamais, qu'on verra, et puis qu'il n'y en aura aucun qui aura peur, parce que vous êtes déjà dans la mentalité de ceux qui gagnent. Alléluia. Vous êtes déjà dans la mentalité de ceux qui aiment leur Seigneur. Vous êtes déjà dans la mentalité de ceux qui disent, Seigneur, je n'ai qu'une vie, tu m'as donné ce dépôt, et tu vas voir ce que je vais en faire. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur de tout notre cœur, et que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.